France Musique.
Il est 21h sur France Musique. Nous retrouvons Émilie Munera et Rodolphe Bueno-Boulmier pour En Piste Contemporain.
Bonsoir à tous, bonsoir Émilie.
Bonsoir Rodolphe.
Nous sommes ensemble jusqu'à 22h avec au programme ce soir.
Eh bien une émission avec trois John.
Ah.
John Adams, John Corigliano et John Cage.
Ah, ils sont tous les trois américains.
Oui, une prière angélique aussi de Lera Auerbach et puis des formes circulaires d'Éric Montalbetti.
Bon alors voici John Ier.
Thank you.
Alors, je vous avoue, Émilie, que j'ai une fascination pour cette courte pièce pour piano de John Adams, China Gates. Je trouve que c'est fascinant. C'est comme un petit objet sonore qui tourne sur lui-même, qui change tout le temps et pourtant qui ne se modifie jamais.
Et elle plaît beaucoup aux pianistes, en général.
Elle plaît beaucoup aux pianistes. Elle est souvent jouée et elle est interprétée ici par Yuja Wang, dernier disque de la pianiste pour l'étiquette Deutsche Grammophon, un disque entièrement consacré à la musique de John Adams. On en avait écouté un extrait, mais je vous avais promis de vous reproposer un autre morceau parce que cet enregistrement est très important. C'est le premier enregistrement de ce dernier concerto pour piano de John Adams. Un concerto écrit sur mesure pour la pianiste. Le compositeur dit avoir été fasciné par l'aisance, la virtuosité, l'énergie de Yuja Wang. On le comprend, hein. Moi, je vous avoue que si je devais écrire un concerto pour cette pianiste, on aurait vraiment envie d'écrire quelque chose de très difficile. Il a donc voulu lui offrir ce concerto plein de vitalité et de malice. C'est le diable qui se cache dans la ville, précise John Adams. Voici le premier mouvement. C'est le dernier concerto pour piano de John Adams. Alors, je ne sais pas exactement combien il y a de concertos, parce qu'il y a des pièces concertantes qui ne portent pas le titre de concerto. En tout cas, ça, c'est le dernier en date. Il avait été aussi créé à Radio France par Víkingur Ólafsson il y a quelques mois. Ici, c'est Yuja Wang qui l'enregistre avec l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles sous la direction de Gustavo Dudamel. C'est le disque du jour dans En Piste Contemporain.
En Piste Contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier, France Musique.
Et on va changer d'atmosphère.
Thank you.
Et c'est avec cette œuvre Arcanum, jouée ici par Kim Kashkashian et la compositrice Lera Auerbach au piano, que j'ai découvert la compositrice Lera Auerbach. Et tout de suite, j'ai été séduite par son univers sombre et intense. C'est une très bonne pianiste, comme Thomas Hadès d'ailleurs. Elle joue parfois le grand répertoire. Elle est aussi artiste plasticienne, écrivain. De ce côté-là, je ne la connais pas, mais elle a écrit des recueils de poèmes. Et elle a quitté sa Russie natale à 17 ans pour s'installer à New York. Aujourd'hui, on découvre son œuvre 72 Angels, 72 anges, pour chœur et quatuor de saxophone. La pièce se compose de préludes, chacun mettant en musique les 72 anges gardiens. Mon intention, dit-elle, est de me focaliser sur ce que partagent différentes cultures dans leur tradition religieuse, spirituelle, ésotérique et mythologique. Je souhaite mettre l'accent sur ce qui nous unit à travers les liens communs. Et donc ces 72 évocations vont célébrer tous les anges dans leurs variations, dans leurs multiples facettes. 80 minutes d'une prière ininterrompue avec un quatuor de saxophone qui donne une très étrange lumière à cette partition. Il soutient les voix, le dialogue, il chante seul parfois. Elle trouve que les saxophones, les Auerbach, n'ont pas de limite de couleur ni d'expression. Ils peuvent rugir comme un animal sauvage évoqué de puissantes trompettes ou de subtils bois. En tout cas, une pièce intense, méditative, qu'il faut prendre le temps d'écouter. On va écouter ces 8 premières minutes et ce sont les 6 premiers anges qui sont ici chantés.
Thank you.
72 anges, 72 angels. Là, c'était les anges 1 à 6. C'est la compositrice Lera Auerbach qui signe cette partition avec le chœur de chambre des Pays-Bas dirigé par Peter Dijkstra et puis le quatuor de saxophone Racher. Une très belle partition à découvrir sous le label Alpha. Vous connaissez cette compositrice?
Je viens de la découvrir parce que je vois qu'elle apparaît sur le disque de Rudolf Purpinder qui a commandé des variations Diabelli à plusieurs compositeurs et on va en écouter un extrait bientôt. Donc j'ai écouté ça, j'avais trouvé ça très beau et ce qu'on vient d'entendre là aussi est très réussi. Donc effectivement, c'est une compositrice à découvrir. Moi, c'est un compositeur que je vous amène à découvrir. Vous le connaissez peut-être pas en tant que compositeur. C'est Eric Montalbetti. C'est son deuxième disque pour le label Alpha avec des œuvres de musique de chambre et une idée qui rassemble ces différentes pièces. C'est l'art visuel. L'art visuel avec ses couleurs, ses peintures, mais aussi ses formes, ses perspectives et ses reliefs. On trouve par exemple un hommage à Matisse. On a aussi une pièce qui s'intéresse aux formes, en ensemble de formes, les formes uniques, les formes circulaires. On y croise le violoniste Christian Tetzlaff, Pierre Génisson à la clarinette ou encore les musiciens de l'ensemble intercontemporain. Le trio que nous allons écouter, trio pour violon, violoncelle et piano, est un triptyque dont chacun des volets est conçu en hommage à un mouvement artistique. Alors on y trouve, je ne sais pas, le suprématisme, on y trouve d'autres formes. On y voit passer par exemple Sonia et Robert Delaunay avec les formes circulaires. C'est une musique ici interprétée par l'ensemble intercontemporain. C'est une pièce qui a été créée en 1990 et révisée en 2015. Vous avez Eric Maria Couturier au violoncelle, Hideki Nagano au piano et Ae-sun Kang au violon.
Thank you.
Les formes circulaires d'Éric Montalbetti, ce sont les musiciens de l'ensemble Intercontemporain, deuxième disque de ce compositeur publié par le label Alpha.
Vous êtes prêt pour l'expérience grandes masses sonores?
En plus, je sais d'avance que j'adore ce genre d'expérience.
Xenakis et sa pièce Métastasis, une œuvre toute en tension, danse massique et stochastique. Une pièce importante dans le corpus de ce musicien, considéré comme son opus 1 et puis créé en 1955 par Hans Rosbaud à Donaueschingen, totalement révolutionnaire. D'ailleurs, elle n'avait pas manqué de faire débat lors de sa création. Mais l'œuvre qui a été créée à ce moment-là, en 1955, n'était pas l'originale. C'était une version révisée. Et une première partition avait en effet été composée et montrée au chef Hermann Scherchen, qui avait conseillé à Xenakis d'y apporter quelques modifications. Et il a fallu attendre plusieurs années après la mort du compositeur pour que la version originale de l'œuvre, Métastasis A, soit donnée en 2008 à Turin, sous la direction d'Arturo Tamayo. Ce même Arturo Tamayo donc a enregistré cette pièce et s'est chargé de sa première parution commercialisée. Les différences vont surtout se faire au niveau des pupitres de cordes réduites dans la deuxième version, donc c'est une perception auditive qui est assez différente, mais que ce soit la version A ou B, c'est une œuvre fondatrice et surtout impressionnante avec ses blocs massifs et son travail sur les textures. Un début absolument fascinant, un immense crescendo d'une minute, énorme cluster de cordes qui emporte tout sur son passage et que voici. Thank you. Métastasis A, la première version de cette œuvre de Xenakis avant que le compositeur ne la révise, et c'est l'orchestre symphonique de la RAI dirigé par Arturo Tamayo.
En piste contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier, France Musique.
Alors j'ai une question pour vous, Émilie, je ne sais pas si vous allez trouver la réponse, en tout cas elles sont multiples. D'après vous, un compositeur vivant, quand pouvons-nous dire qu'il est célèbre ?
Quand les violonistes, pianistes, interprètes de toutes sortes s'emparent de son œuvre et l'enregistrent et que ça devient un tube du répertoire finalement.
Que c'est enregistré plusieurs fois, je trouve qu'effectivement aujourd'hui je pense que c'est une bonne réponse pour...
Je vous remercie.
Un pas vers la célébrité, je dirais qu'il y a un deuxième pas aussi qui peut mener un compositeur vers la célébrité, c'est écrire une musique de film.
Oui. J'ai pensé aussi pour ce compositeur.
Ça peut aider. Et c'est le cas de John Corigliano en composant Le Violon Rouge. C'est à la fois une musique de film et un concerto pour violon écrit pour Joshua Bell, donc pas n'importe quel violoniste, et ensuite enregistré à plusieurs reprises. Musique de l'impalpable, redoutablement aventureuse pour une musique de film, virtuose et jamais kitsch. John Corigliano est un grand compositeur. Nous lui avons d'ailleurs consacré à notre Carrefour de la création du 22 décembre dernier. Vous pouvez le réécouter. Le compositeur américain était de passage à Paris. Et nous l'avions rencontré. Joshua Bell, Philip Kint, Edda Baylor, et voici maintenant la version d'Amanda Favier, pleine de vie et de vitalité, donc cinquième version pour ce violon rouge que nous écoutons tout de suite. Thank you. Le violon rouge, c'est à la fois une musique de film, mais c'est également devenu un concerto pour violon. C'est la musique de John Corigliano, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, sous la direction d'Adrien Perruchon, un musicien de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, percussionniste à 16 heures, et même plus qu'à 16 heures, puisqu'il est surtout percussionniste, et on
c'est
le découvre.
C'est comme ça qu'on l'a découvert, en tout
cas. Depuis quelques temps comme chef d'orchestre, et puis c'est ici la violoniste Amanda Favier.
On va rester avec un John des États-Unis.
Oui, et un Jay.
Et voilà, John Cage, avec un disque qui s'appelle John Cage rencontre Satie, avec les pianistes Anne de Fornel et Jay Gottlieb.
Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que oui. Jay Gottlieb a enregistré le China Gates qui a ouvert cette émission par Yu Jia Wang, et il en a lui aussi donné une très belle version de la musique pour piano de John Adams.
Tout aller à leur comparer. Alors, on sait que Cage avait une admiration sans borne pour Eric Satie, va le faire connaître sa musique aux États-Unis en organisant de nombreux concerts. Peut-être que je peux être blâmé pour mon dévouement à Satie, disait John Cage, mais je ne pourrais jamais y renoncer. Si mes idées sombrent dans la confusion, je dois cette confusion à l'amour. Les musiciens de cet enregistrement ont choisi des œuvres pour deux pianos, donc de Satie, ils jouent Socrate, et de John Cage, ils ont retenu la première expérience et trois danses pour piano préparé. Pour les trois danses, chaque pianiste, nous dit-on dans le livret, doit préparer 36 notes avec des vis, des boulons, des pièces de monnaie, des morceaux de feutre, du caoutchouc ou du plastique. Et le piano, les pianos, vous allez l'entendre, se transforment en orchestre de percussions avec des sonorités assez tribales, comme dans cette première danse. La première des trois danses pour deux pianos préparés de John Cage, Anne de Fornell et Jay Gottlieb.
Ça aurait été marrant d'entendre un jour un portrait sonore fait par John Cage.
Oh,
je pense
avis,
que ça aurait
oui.
pu être inventif aussi.
Ça aurait été très original.
L'émission est presque finie, mais avant, voici...
Portrait sonore. Antoine Berland.
Faites un son aigu.
Que pensez-vous de la musique? Musique, c'est ma vie.
Bonjour.
Auprès de la blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de la blonde, il fait bon dormir. Merci. Dormi face à l'acide.
C'est pour les enfants.
Oui, il est temps de les déconfiner.
qu'ils retournent à l'école très très vite.
C'était le portrait sonore d'Antoine Berland.
Merci à l'équipe technique Alexandre Billard, Pauline Boisaubert et Claire Lagarde qui réalisent cette émission.
À réécouter sur francemusique.fr.